je suis bien contente que tu finisses par les aimer, hein, mes feuilletons de Noël. Mais tu sais, la fin, c'est comme d'habitude, hein, ils vont tomber amoureux. Allez, coupe là, c'est l'heure de l'agiter du local.
Oh, attends, on a encore 5 minutes. Je sens qu'il va bientôt lui déclarer sa flamme.
Ce matin, vous vous êtes peut-être levé sans trop savoir pourquoi. Ça y est, on est en plein dedans, dans cette période où on n'a pas envie, mais on le fait quand même. Allez, on y va. Des journées qui ressemblent à du « à quoi bon » qui a remplacé le « pourquoi pas ». Ça nous manque, les passions, les envies débordantes, les rêves. C'est aussi pour ça que je suis contente de recevoir des invités comme celui d'aujourd'hui, parce que la passion, il en a, le sourire et la bonne humeur aussi. Vous le connaissez peut-être, c'est l'artiste Charles Lee qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Charlie.
Bonjour Margot.
Nos auditeurs vous ont peut-être rencontré le week-end dernier au Marché des Lumières à Laval, mais on a aussi la chance d'avoir différents événements auxquels vous participez tout au long de l'année en Mayenne, sur lesquels on peut vous rencontrer et découvrir vos créations. On va parler justement aujourd'hui de la manière dont vous travaillez, de ce qui vous touche dans l'art de la ferronnerie, métallurgie, dans quelques instants. Ça vous arrive sans doute parfois de vous demander si vous êtes à la bonne place, au bon endroit. Vous n'êtes pas sûr, vous voudriez quelque chose de plus confortable. Vous savez, Lucie s'est rendue quelque part la semaine passée, et alors quand elle m'en a parlé ou quand elle m'en parle encore aujourd'hui, j'ai l'impression que ce bon endroit se trouve très certainement à Mayenne, à Copainville. Et la chance qu'on a, c'est que tu n'y es pas allée sans ton micro, tu t'es rendue à l'espace compteur, tu nous as ramené un petit bout de cette soirée. Bonjour Lucie, comment tu vas ?
Écoute, très bien, et je suis ravie de pouvoir vous faire goûter à ces comptes justement tout à l'heure.
On écoute ton reportage en seconde partie d'émission, juste avant de retrouver Jean-Michel Guinaudot et sa chronique de l'UFC Que choisir de la Mayenne. Mais avant, Lucie, tu nous proposes un point sur les actualités locales.
Tout à fait, et pour commencer, je fais un peu suite à ce que j'ai pu vous raconter hier par rapport au projet de loi immigration. La Ligue des droits de l'homme de la Mayenne a communiqué aux députés et sénateurs du département, dans une lettre ouverte, son inquiétude face au texte de ce projet de loi asile et immigration, justement, qui est débattu en ce moment en commission mixte paritaire. La LDH n'y va pas par quatre chemins et écrit dans ses premières lignes, je cite, « Ce texte est particulièrement dangereux », fin de citation, avant de détailler point par point les sujets de son appréhension. Elle estime que ce projet, qu'elle trouvait déjà critiquable dans ses premières versions, en vient à nier la dignité des personnes. Et par cette lettre, la Ligue des droits de l'homme enjoint les sénateurs et députés auxquels elle s'adresse à, je cite à nouveau, « rester fidèles à leurs engagements pour une République française fidèle à ses valeurs d'humanité et de fraternité », fin de citation. Autre nouvelle, celle des syndicats cette fois-ci. À Laval, la CFDT, la CGT et la FO réclament des primes pouvoir d'achat pour les agents de la ville, de l'agglomération et du CCAS. Ce qui pousse cette réclamation de leur part, c'est qu'ils estiment injuste le fait que les agents de la fonction publique d'État aient le droit à une gratification obligatoire, tandis que pour les agents de la ville, de l'agglomération et du CCAS, cette gratification est sur décision des collectivités. Face à eux, Florian Berco, maire de la ville et président de l'agglomération, justifie en disant que la collectivité n'a pas la capacité financière pour cette prime. Et puis, sans transition, bonne nouvelle pour les covoitureurs et ceux qui veulent rentabiliser l'utilisation de leur véhicule, pardon, un nouveau parking de covoiturage et de stationnement poids lourd est mis en place à Saint-Frimbaud-de-Prières, au croisement entre la RN162 et la RN12, au lieu-dit La Farcière. À noter qu'il utilise l'ancienne route départementale, ce qui permet de s'inscrire dans la limitation de l'artificialisation des sols.
Et alors, puisqu'on est passé du coq à l'âne, un peu de sport à présent, Lucie.
Avec plaisir, peut-être que vous le savez, moi je l'ai appris récemment, la Mayenne est réputée pour ses cyclistes. Eh bien ça s'est confirmé ce week-end puisque les coureurs du CA d'Evron se sont largement démarqués pendant le championnat de cyclocross des Pays de la Loire à Machecoul. Dans les stars qui ont brillé sur le podium, Tilio Davou a remporté haut la main le U15, ce qui vient d'ailleurs s'ajouter aux 11 victoires précédentes de sa saison. Et pas loin derrière lui, Léo Verrier, quant à lui, a terminé deuxième chez les U17, non sans déception pour sa part, sachant qu'il menait pendant une grande partie de la course. Voilà.
Merci Lucie. Charlie, aujourd'hui dans cette émission, vous tombez bien parce qu'on a envie de raconter des histoires et on a envie de parler de la vôtre pour commencer. Aujourd'hui, vous êtes artiste, artisan, créateur dans le domaine de la métallurgie, de la soudure, de la ferronnerie d'art. Vous avez installé votre atelier à Argentré, à la Hérisserie. Mais si on reprend le début de cette histoire, vous avez fait vos études dans l'électronique.
Oui, tout à fait. Ouais. L'histoire, en fait, elle a commencé à l'adolescence. J'avais déjà le plaisir de créer. J'ai commencé à a vraiment apprécié créer. Et pendant les études, mes études d'électronique pendant 6 ans, les années passaient petit à petit et j'ai travaillé un peu en tant que technicien dans une usine et je me suis vite rendu compte que ça allait pas me plaire longtemps. Donc je suis reparti dans les études en CAP Bac Pro en chaudronnerie pour avoir un pied dans le métier de la métallerie et je me suis mis à mon compte dans la foulée. Et là, ça fait 5 ans maintenant que je suis à mon compte en métallerie et ferronnerie d'art.
Et alors, qu'est-ce qui peut déclencher peut-être cette envie justement de passer aussi du côté artistique? Peut-être qu'il y a eu des artistes qui vous ont un peu inspiré?
Ouais, c'est vrai que je me suis toujours apprécié regarder des artistes que j'admire, des artistes qui sont la plupart du temps à l'étranger. Et c'est vrai que je m'en inspire à chaque fois, je regarde leurs pièces, je suis impressionné de leurs résultats. C'est des maîtres pour moi, je me dis, c'est vers là que je veux aller. Et je me demande à chaque fois comment ils arrivent à obtenir cette texture, cette finition. Du coup, je creuse, j'expérimente et voilà, petit à petit, ça avance.
Est-ce qu'il y a peut-être une émotion particulière au moment du travail de la matière, quelque chose, ou est-ce que c'est une recherche, une curiosité permanente?
Une curiosité, surtout dans le résultat, en fait, savoir comment obtenir tel résultat. Parce que c'est hyper varié, en fait, la création d'une même pièce. On pourrait avoir 50 000 résultats différents et voilà, j'expérimente petit à petit. Pour l'instant, j'en suis encore qu'au début, mais voilà, ça avance dans le bon sens.
Et alors, quand une idée vous vient, comment vous procédez dans le travail? Il n'y a pas de croquis, je crois, initialement.
Les croquis, bon, ça va être un petit croquis à la craie sur une table, mais c'est vrai que j'aimerais savoir dessiner sur papier et réussir à projeter la réalisation. Mais le résultat, en fait, il vient vraiment petit à petit. En cours de création, je fais au feeling et après j'apprécie le résultat.
Alors chaque pièce que vous créez est unique. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'elles sont fabriquées presque entièrement avec des matériaux de récupération.
Oui, tout à fait. En fait, pourquoi le métal? C'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a énormément de matériaux de métal de récupération en tout genre à récupérer de partout. Et voilà, c'est une mine d'or exceptionnelle. Et voilà, l'idée ne va pas venir forcément d'une idée de base d'une matière, mais c'est petit à petit, en fait, je fais avec ce que j'aime. J'ai une bonne recyclerie de matériaux maintenant, bien variée, et maintenant, du coup, j'ai les clés en main pour réaliser un peu tout et n'importe quoi.
Les matériaux, chaque pièce, ça s'ajoute petit à petit pour créer le détail.
Oui, tout à fait, mais ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, hein. Même de la tôle complètement rouillée, chiffonnée, comme sur l'escargot des soudeurs de la nuit. Le corps a été fait avec de la chute de matière découpée au laser, mais qui est complètement écrasée, chiffonnée, et ben, c'est très bien comme ça.
Justement, si on veut parler des soudeurs dans la nuit, donc il y a cette très belle pièce qui est un escargot, mais qui est... quand même déjà une très grosse pièce, mais avec beaucoup de détails, et notamment de la couleur. Et alors je me demandais comment est-ce qu'on... Donc c'est pas de la matière peinte, là c'est vraiment le choix des...
Oui, tout à fait, c'est vrai que dans toute ma réalisation, il n'y a jamais de peinture. Je vais vernir sur la fin pour les finitions, mais j'utilise la couleur du métal, que ce soit rouillé, qu'il soit polymiroir, donc miroir, ou juste gris, ou là pour l'escargot par exemple, le doré, il venait d'un bidon d'huile de tournesol. Donc le doré, à la base c'est une tôle en acier, mais le doré c'est juste un revêtement par-dessus, et donc il protège dans le temps en plus, et le contraste des couleurs était super beau, et on a bien matché, on a encore bien marqué l'événement.
Et alors justement, la contrainte de cet événement, c'est de réaliser quand même une pièce en un temps
ouais, c'est
record,
ça, en 24 heures, plus ou moins 24 heures. On commence à 14 heures le samedi, donc en équipe. Donc on est trois dans mon équipe avec deux amis qui gèrent, des très bons bricoleurs qui soudent également un petit peu. Et du coup, on commence à 14 heures le samedi et à 15 heures le dimanche, on pose les outils et il y a la vente aux enchères dans la foulée au profit d'associations.
Une autre année, vous aviez fait un aigle, je crois, et c'est pareil, c'était dans le détail.
Ouais, il y a 3 ans, un aigle. L'année dernière, c'était une fée, et du coup, cette année, l'escargot. Du coup, c'est 3 belles années, et l'année prochaine, c'est les 10 ans. C'est les 10 ans des soudeurs de la nuit. Donc, on est impatients de... Mais j'y pense tellement que j'en rêve des fois. mais non, on est vraiment impatients d'y être.
Oui, c'est vraiment le gros événement, en fait, où vous êtes carrément dans votre cour de récréation.
Ouais, il y a plein de gens qui viennent nous voir. J'entends parler de l'événement encore jusqu'à l'année d'après. Et c'est vrai qu'au niveau de ma communication, il y a un impact vraiment pas négligeable. Et c'est un super lieu dans le parc des Ondines à changer, c'est magnifique.
puis une ambiance aussi, une atmosphère qui est particulièrement chaleureuse sur cet
événement. Exactement, il n'y a pas de compétition, on s'entend super bien, toutes les équipes, c'est vraiment super. Ouais.
Donc chacune de vos créations a la beauté du détail, ça on le disait, mais ce que vous aimez particulièrement, ce sont les œuvres monumentales. Petit à petit, vous essayez de peut-être vous consacrer plus à ce type de pièces. Le temps de travail que vous passez sur chaque pièce est à mon avis très différente, mais peut-être si vous deviez dire sur la pièce peut-être qui vous a nécessité, qui a eu besoin de plus de temps, ce serait laquelle ?
Au total, niveau temps, je pense que ce serait la dernière réalisation, c'est la tortue justement. Si ceux qui me suivent l'ont aperçu, il n'y a pas encore les photos finales, mais c'est une tortue du coup, de mon côté, parce que c'était en collaboration avec mon ami Thibaut, Wood Tib, qui est menuisier, qui a intégré du bois pour les écailles de la tortue, pour la carapace. Et en tout, j'ai passé autour de 55-60 heures dessus, précisément à peu près. Et en tout, c'est une pièce entre 80-90 heures de travail, en tout. Et du coup, ça commence à faire quelques dizaines d'heures. Et
elle est imposante aussi, cette pièce-là, la taille, c'est à peu près
la dimension. Une tortue de mer, du coup, à peu près 1m40 de longueur, en comptant la tête et la carapace, les pattes. Donc ça commence à faire, mais c'est vrai que ça m'attire de plus en plus des pièces, pas forcément du monumental à des dizaines de mètres de haut, mais déjà des pièces de volume, avec un peu plus d'un mètre, deux mètres peut-être.
Donc nos auditeurs ont peut-être pu vous rencontrer d'ailleurs au Marché des Lumières, vous y étiez le week-end dernier.
Tout à fait.
Vous étiez également, il y a très très récemment, c'était au Salon des métiers de création d'art.
Au Salon métiers d'art à Nantes, tout à fait, ouais.
C'est ça.
À la Cité des Congrès, ouais.
Donc vous avez pu présenter également différentes pièces et notamment la tortue.
Oui, la tortue, elle était finie de la veille. Et du coup, 3 jours de salon, c'était une bonne expérience. On était invités, j'étais invité en fait sur le salon parce que j'ai eu un prix en début d'année avec la Chambre des métiers. Le prix coup de cœur des mains d'or offert par la CMA. Et voilà, du coup, c'était intéressant, c'était une bonne expérience, de très très bons retours. Et du coup, la tortue qui a fait sensation sur le salon.
Et on peut le dire à nos auditeurs, donc vous participez quand même à différents événements. Et alors, si on vous aperçoit un moment, il ne faut pas hésiter à venir vous voir. Vous aimez l'échange particulièrement.
Ah ouais, moi j'aime bien discuter.
Et puis découvrir aussi les réactions des gens sur les créations que vous faites. En fait.
Ouais, j'adore. Bah, par exemple, au Marché des Lumières, la semaine dernière, il y a eu vraiment énormément de monde à passer. Et parfois, donc, échanger avec les gens, c'est très intéressant. Mais aussi, des fois, de prendre un peu de recul et puis juste de regarder la réaction des gens, juste les regards et tout ça. Et ça, ça n'a pas de prix, quoi. C'est vraiment... Ouais, c'est un échange d'énergie qui n'est pas palpable. Quoi.
C'est aussi ça l'art, c'est l'échange finalement qui se fait autour même des pièces, des créations. C'est ça qui est intéressant. Et donc la récupération, on le disait tout à l'heure, vous récupérez des matériaux, mais ça se fait également dans les machines que vous utilisez. Parce que parmi celles-ci, il y a aussi de la récupération d'anciennes machines ou outils.
Oui, tout à fait. C'est vrai que l'année dernière, j'ai fait l'acquisition de deux machines, de vieilles machines qui ont 50 ans, là, qui ont eu 50 ans cette année. Une cisaille et une plieuse. Et donc, c'est aussi pour l'utilisation de mon activité de métallerie en parallèle. Mais pour les réalisations artistiques, j'ai plusieurs pistes en tête d'utilisation de ces machines-là, qui sont encore très fonctionnelles et qui m'ouvrent des portes pour la création artistique.
Et en fait, dans le travail de la matière comme ça, en fait, c'est un apprentissage un peu permanent, tout est à imaginer. Et puis on a l'impression quand on regarde vos pièces qu'on peut tout faire. C'est pas aussi simple, je pense, que ce qu'on pourrait imaginer.
Mais moi, je ressens vraiment qu'à chaque pièce, j'apprends et j'expérimente à chaque fois. Et vraiment, je ressens vraiment un apprentissage à chaque pièce. Et chaque pièce nourrit la prochaine et c'est vraiment une sensation assez forte que j'ai. Et voilà, je suis impatient de commencer à creuser certaines... Parce que même encore sur la tortue, c'était tout nouveau. La texture du corps, c'était une nouvelle technique, une nouvelle approche. Et voilà, c'est une première fois. Encore dernièrement, j'ai réalisé une autre pièce, c'est encore une autre chose. Et petit à petit, voilà, je vais commencer à me poser, à creuser certaines techniques, quoi.
Oui, parce qu'on peut le dire, en fin de compte, dans les pièces que vous proposez, il y en a des petites, ça va de la figurine jusqu'à la guitare, jusqu'à, on le disait tout à l'heure, un faucon, il y avait aussi un buste de cheval,
très diversifié
même au niveau des
tailles. Oui, toutes tailles différentes, parce que je réalise des pièces pour mon plaisir personnel, après bien sûr pour les vendre par la suite, pour les exposer, mais je réponds à des demandes de personnaliser en fonction du thème. C'est vrai que je fais beaucoup de figuratifs, je fais un peu de décoration murale, mais beaucoup de figuratifs, souvent vers les animaux, parce que ça me parle beaucoup, c'est la nature, quoi.
Et vous avez également créé l'habillage métallique des colonnes de l'entrée extérieure de l'hôpital Foch à Paris. Alors ça, c'est un projet particulièrement aussi impressionnant.
Tout à fait, c'est vrai qu'il y a une petite part d'artistique, mais du coup, c'est plus lié à mon activité de métallerie. donc avec Codémarrage, une coopérative d'activité. Et du coup, c'est le hasard en fait, de rencontres, de contacts qui m'ont amené à répondre à ce projet. Donc c'était quand même un très gros projet l'année dernière, que je n'ai pas encore présenté entièrement sur ma page Facebook. Mais du coup, c'était deux gros chantiers sur Paris, donc pour l'hôpital Foch, et qui m'ont pris une bonne partie de l'année dernière, mais qui m'ont permis de mettre bien, quoi.
Et alors, pour terminer, Charlie, qu'est-ce que vous pourriez dire peut-être à un jeune qui a une passion, mais à qui on répète peut-être ça va être compliqué, ça va pas être possible, peut-être qu'il faut te sécuriser davantage, ou alors qui lui-même a peur et n'ose peut-être pas se lancer?
Ouais, la peur, je peux comprendre, mais si avec le plaisir, à partir du moment où on a un plaisir à faire quelque chose, que ce soit dans l'art, hein, que ce soit dans la musique, dans la création, dans la peinture, s'il y a un plaisir et s'il y a une passion, faut pas trop réfléchir, hein, faut foncer dedans. Et puis après, pour de là se mettre à son compte, c'est aussi une autre histoire, parce qu'il faut quand même avoir les pieds sur terre et quand même gagner son argent. Mais je conseille de foncer et puis de pas hésiter et de créer autant que possible.
Ne pas abandonner. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Charles-Louis.
Merci beaucoup.
On peut, si on souhaite voir votre travail, éventuellement, si on a déjà l'idée d'une pièce à vous commander, ouais. Ça peut se faire sur votre site internet.
Tout à fait, il y a un formulaire de contact. Et puis là, il est en cours d'amélioration, d'ailleurs, le site, actuellement. Et oui, il ne faut pas hésiter à y aller. Donc c'est www.charles-lee.fr. Et voilà, il y a un peu toutes les réalisations que j'ai réalisées jusqu'à aujourd'hui. Et il ne faut pas hésiter à me contacter si vous avez des questions, des envies, des idées.
Également, vous suivez sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. On peut suivre un petit peu.
Instagram, ce n'est pas trop actif. J'essaye de... Mais c'est compliqué de tout gérer, c'est vrai. C'est plus Facebook jusqu'à aujourd'hui qui a beaucoup marché. Et j'ai 1500 followers. Non, mais ça se passe bien. Je suis content. Je suis content de là où je suis et là où je vais.
Bon, bah, merci d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir de pouvoir partager votre travail.
Merci beaucoup de l'invitation. C'était super. Merci.
Et aujourd'hui, j'ai envie que ça soit doux et confortable dans cette émission. On vient de passer un bon moment avec l'artiste Charlie. L'espace conteur nous emmènera encore ailleurs. Et Bon Entendeur, c'est bien faire ça, nous emmener ailleurs. Avec ce nouveau single, on fait nos valises et on va à Rome.
Thank you.
chères auditrices, Copainville, vous connaissez ?
Eh bien, écoutez, moi, j'ai découvert la semaine dernière pendant une soirée qui s'appelle Espace Compteur. Ils se donnent rendez-vous tous les deuxièmes mardis des mois pairs, attention, c'est précis, au foyer des jeunes travailleurs à Copainville, à Mayenne. On vient y écouter des contes et vous allez voir, ça met des étoiles dans les yeux et dans les oreilles, c'est un délicieux retour en enfance. Avant de vous y emmener avec moi, en quelques mots quand même, Espace Compteur, c'est un collectif qui est très horizontal avec une volonté de décision commune et qui propose aussi depuis quelques temps des formations, aussi bien pour les pros que pour les publics du foyer des jeunes travailleurs de Copainville. Et puis, quelque chose que j'ai compris en échangeant avec les artistes, c'est qu'il n'y a pas de parcours ou de formation type. En bref, vous l'avez compris, je suis tombée sous le charme. J'espère que vous aussi, on se plonge ensemble dans un petit retour sur cette soirée.
Alors moi, je suis Jean-Yves Boucher, conteur paysan confiturier, par ailleurs. Donc on est venu à l'espace Compteur ce soir. On se retrouve tous les deuxièmes mardis des mois pairs pour d'abord une scène ouverte. Ça permet en fait à des gens de venir s'essayer au conte, de venir s'essayer à un public qui est toujours très bienveillant ici et de faire ses premiers pas sur une scène. La règle du jeu, en fait, c'est on ne lit pas. On est dans l'oralité, mais ça peut être du slam, de la chanson, ça peut être d'autres choses, mais pas de lecture. Et puis, donc, il y a une deuxième partie, là où on invite toujours un conteur pro pour faire découvrir un petit peu la scène du conte au public mayennais. Avec une petite particularité, au mois de juin, on fait une déambulation. On va se promener dans le quartier, on va dans les rues et on raconte des histoires dans le lieu public.
Et donc, Espace Compteur, vous me disiez, c'est un collectif ?
C'est un collectif qui est constitué donc de conteurs, pros, semi-pros, amateurs, enfin de passionnés en tout cas de l'oralité et du conte en Mayenne. Comment est-ce qu'on rejoint le collectif ? En venant déjà à ces soirées d'Espace Compteur tous les deuxièmes mardis des mois pairs à Copainville, à Mayenne, ça c'est le premier pas. C'est gratuit, enfin si, il faut amener un coup à boire ou à manger. Ou une histoire, mais c'est tout.
Comment est-ce qu'on devient conteur selon vous ?
La question piège, ouais. Il y a plein de façons de devenir conteur. Je crois que c'est vraiment une histoire particulière qui regarde chacun comment on devient conteur. D'abord, on rencontre un jour le conte, on entend une histoire, on se dit waouh, c'est trop bien. Puis on a l'envie d'en raconter soi-même et voilà.
Moi, c'est Olivier Hédin. Je dirige la compagnie O, qui est basée dans un petit village du Nord Mayenne à La Chapelle au Ribou. C'est une association, loi 1901, d'obédience et d'éducation populaire, parce que ce qui nous intéresse, c'est les 93% des gens qui ne vont pas voir les spectacles et non pas les 7% qui vont voir. Bien qu'ils font partie aussi de nos fidèles spectateurs. On propose de la culture au niveau du territoire de Mayenne Communauté, avec des événements, un festival qui s'appelle Les Contrées Ordinaires, un événement qui s'appelle Les Insolites, et puis on coordonne l'Espace Compteur, un collectif de compteurs à l'échelle départementale au niveau de la Mayenne. On se réunit maintenant depuis 15 ans à Mayenne et quasiment 20 ans sur le territoire de la Mayenne. Donc c'est une vieille histoire qui est née grâce à un vieux monsieur qui s'appelle Paul Bancé, qui était le conteur mayennais, avait eu cette envie de réunir des gens pour écouter des histoires. Paul est décédé il y a quelques années et ça a continué avec des petites règles qui sont on ne lit pas. Et puis sinon la parole est ouverte sur la scène à qui veut bien l'apprendre. C'est vraiment un travail de coordination collective. On choisit quel stage on veut avoir pendant l'année pour parfaire nos pratiques, quelle discipline et quel conteur on veut accueillir, qui on a croisé sur les chemins des festivals. Cette volonté de montrer vraiment toutes les facettes du conte, parce que là, tu as vu, tu vois, 6 conteurs, tu as 6 univers différents, et je crois qu'on est 5000 en France, et que sans doute, tu n'as pas 5000 univers différents, mais c'est bien, bien, bien séquencé, quoi.
Mais nous, on est des grands enfants. Vous êtes d'accord ou...
Très clairement, il y a une solidarité entre les conteurs. Un nouveau conteur qui arrive sur le territoire est accueilli notamment grâce au dispositif de l'espace conteur. Il y a cette volonté de mélanger les genres, d'apprendre les uns des autres. Il y a beaucoup de bienveillance, pas de jugement. Je pense que c'est en métissant nos genres, en se fréquentant les uns les autres, qu'on progresse dans notre discipline. Et tout le travail de l'espace conteur, c'est d'élever le niveau des conteurs en Mayenne. C'est ça notre objectif, en fait. C'est que notre parole, en fait, elle soit audible et puis identifiée. On n'est pas du tout dans cette notion de... Il y en a bien assez de frontières partout, non ?
Bonsoir, moi c'est Quentin Fourreau. En fait, je viens de Mayenne à la base. J'ai grandi à Louverney et c'est à Rennes que j'ai rencontré l'art du conte et sa transmission. Ça a pris beaucoup de place dans ma vie pendant mes études, ensuite pendant mon travail de bibliothécaire. Et donc j'ai décidé en 2020 d'arrêter la bibliothèque pour devenir conteur professionnel.
Et alors à quoi ça ressemble la journée d'un conteur du coup ?
La journée d'un conteur, je sais pas. Les miennes, comme mon répertoire, il est essentiellement traditionnel. C'est beaucoup de lectures, de collectes, de contes ancestraux, des contes régionaux, de la mythologie aussi, parce que je travaille beaucoup avec les scolaires, avec les écoles, les collèges. C'est du travail de voix, du travail autour d'accessoires avec lesquels j'essaye d'interagir, contacter ceux qui, autour de moi, font aussi un art de la tradition pour essayer de mélanger tout ça. Quand je lis des contes, donc il y en a que je lis, et je fais que les lire. Et il y en a, c'est comme une rencontre quasiment humaine parce qu'ils me parlent de quelque chose d'autre que ce qu'ils disent. Et ça résonne en moi. Et alors à ce moment-là, je me dis qu'il y a un truc à creuser. Alors ça peut être soit une notion, mais parfois ça peut être des personnages. Et quand ça me saisit comme ça, il faut que je creuse. Donc je pars de quelques lignes pour arriver à des choses qui peuvent durer 12, 15, voire 20 minutes. Il y a toujours une forme de morale dans le conte traditionnel. Il y a des contes qui sont extrêmement moraux. Moi, j'essaye de donner plutôt une dimension le plus ouvert possible humainement. Le boulot du conteur traditionnel, à mon sens, c'est de proposer quelque chose d'assez humainement ouvert pour que chaque auditeur puisse, au sein d'une morale un peu universelle, choisir sa voie, choisir son chemin dans son écoute.
Il fait noir. Il fait froid. La petite se réveille tout juste et le feu, il s'est éteint. Mais le feu, il ne doit jamais s'éteindre.
Je m'appelle Noémie Truffaut, je suis conteuse et je suis venue faire un spectacle à la MJC de Copainville là, ce soir. Moi, j'ai commencé à conter avec les conteurs de la compagnie O et c'est eux qui m'ont formée en fait. Donc ça, c'était une vraie source d'inspiration parce qu'ils m'ont fait découvrir le conte traditionnel. Ils écrivent, mais il y a vraiment une écriture orale et ils m'ont appris. Mon art de base est la danse. J'ai dansé pendant pas mal d'années. Et c'est pour ça aussi que le geste prend toute sa place, moi, dans ma façon de conter, parce que c'est mon truc central. Et après, je suis devenue enseignante. Donc j'ai commencé à raconter des histoires à mes élèves, en fait. Et là, j'ai découvert le conte et j'ai commencé à faire des formations. Et j'ai fait des années un peu à mi-temps, mi-temps instit, mi-temps conteuse. Et ça pouvait pas trop durer, parce que c'était un peu too much. Et depuis, ça marche. J'ai mon intermittence. Je joue pas mal pour les enfants, beaucoup.
La Baba Yaga est juste derrière elle. Alors là, la petite, elle réfléchit pas, elle plonge dans les hautes herbes. Bah, la Baba Yaga s'arrête, elle la voit plus. La petite, elle se met à ramper. Elle essaie de se faire plus petite encore. Et pendant ce temps-là, la Baba Yaga fouille.
Est-ce que vous écrivez vos textes à partir de sources que vous avez ? Pas trop, j'écris après pour avoir une trace de ce que j'ai. Mais en fait, c'est plutôt, je vais créer les images et raconter. Et après, il s'écrit. Enfin, je veux dire, il s'écrit à l'oral, quoi. Et après, je me mets en texte parce que je veux m'en souvenir et je veux pouvoir faire des annotations sur des trucs de mise en scène ou quoi. Quand je découvre un conte que j'aime bien, ben, je vais le raconter à une pote. Et je le fais en mode conte de comptoir, quoi. On boit une bière et je te dis vite fait ce que c'est. Et après, ça vient et je le raconte à je sais pas quel enfant de mon entourage. Je le prends en otage et je teste et c'est comme ça que j'écris.
Elle chante ? Et on a l'impression que les flammes, elles dansent sur le son de sa voix. Yemolashka, yemomomolashka, yemolashka, yemomologo.
C'est dingue parce que chacun a vraiment son conteur et c'est des styles complètement différents. Il y en a, ils sont très posés, ils font des choses extrêmement pastel, très poétiques. Et souvent d'ailleurs, ça va pas du tout avec le physique. Il y a une conteuse avec qui je travaille qui s'appelle Éline Lavant, qui est sur Nantes, que j'aime beaucoup. Et elle est toute petite, toute menue, toute blonde avec ses petits yeux bleus là. Et en fait, waouh, c'est elle la maman africaine quand elle conte. Donc c'est assez inattendu.
Même pendant les fêtes, restons à l'affût. Jean-Michel Guinaudot de l'UFC Que Choisir de la Mayenne nous propose aujourd'hui sa dernière chronique de l'année 2023. On le retrouve juste après ta proposition musicale, Lucie.
Et oui, il me met de bonne humeur et j'adore son personnage. On écoute La vie de tous les jours de Jacques.
Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à célébrer. Chaque chose qui se passe ne fait pas un souvenir. Les sourires sont au repos, chacun fait ce qu'il doit faire. C'est pas comme sur les réseaux. Dans la vie de tous les jours, ouais, la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, c'est la vie de tous. vie de tous les jours, il n'y a rien à signaler. Les voisins se disent bonjour et les chiens se laissent promener. Je suis content quand il se passe rien, au moins il se passe rien de mal. C'est pas ce qu'on voit aux infos, c'est la vie de tous les jours. Ouais, la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, c'est la vie de tous les jours. Les choses qu'on fait tous les jours n'ont pas vraiment d'intérêt. Mais en vrai, n'a-t-on pas intérêt à faire ce qu'on fait? Au fond, je sais, mais chaque fois j'oublie. Il n'y a rien de plus vital que le vide de tous les jours.
Grande richesse de chroniques, une belle équipe de chroniqueurs dans cette émission et aujourd'hui on va suivre les conseils avisés de l'UFC Que Choisir de la Mayenne.
La chronique du UFC Que Choisir 53 avec Jean-Michel Guinaudot.
Bonjour Jean-Michel Guinaudot, nous fêterons Noël et le premier de l'an bientôt. Pour que ces fêtes soient réussies, qu'est-ce que vous nous préconisez ?
Eh bien, il est vraisemblable que les achats de cadeaux soient déjà faits. Commander sur Internet, maintenant, c'est prendre le risque d'une livraison tardive, qu'elle soit tout simplement le fait du vendeur qui n'a plus le produit en stock ou du transporteur surchargé de colis à livrer. Ne pas commander sans prendre son temps, sans croire aux mentions « plus que deux en stock » ou « plus que 10 personnes en attente d'achat ». Il ne faut jamais oublier de lire les mentions générales de vente qui vous informent, à minima, sur l'origine du vendeur. Oubliez le site qui n'indique pas d'adresse en France. Depuis des mois, certains peaufinent l'imitation de grandes enseignes pour mieux tromper un client trop pressé. Même pour un cadeau, et tant pis pour la confidentialité, il faut garder le ticket de caisse, car c'est souvent la seule preuve d'achat dont on dispose pour faire jouer la garantie. Et bien entendu, déballer le cadeau reçu avant de l'offrir, c'est vérifier son état, et si nécessaire, pouvoir le renvoyer dans les 14 jours, dans le cadre du délai de rétractation.
Et si le cadeau reçu ne me convient pas ?
Ah oui, parce que même sans être difficile, il peut y avoir des doublons. Et si le produit a été acheté dans un magasin physique, il ne peut, normalement, pas être repris ou échangé que si les mentions sont affichées à l'entrée ou à la caisse. Sinon, il ne reste que le bon coin ou le vide-grenier pour le revendre. Comme je l'ai dit, dans le cas d'un achat par correspondance, le délai de rétractation est de 14 jours, mais à compter de la date de livraison. C'est court pour des achats comme ceux de Noël, quelquefois réalisés un ou deux mois à l'avance. Certains sites prévoient un délai plus long, mais alors à ce moment-là, il faut garder la preuve de cette promesse. Et attention aux coffrets cadeaux pour des séjours ou des activités. Il faut faire très attention aux conditions d'activation, d'annulation, d'échange. Certes, cette formule est pratique, mais pleine de pièges, et nombreux sont ceux qui n'ont pu les utiliser. La mode est au développement durable, à l'achat de seconde main. Et attention, seul le terme « reconditionné » est légalement défini, et n'est pas l'équivalent de mentions comme « d'occasion »,« remis à neuf », »,« état neuf », qui ne sont que des mentions commerciales, et derrière lesquelles le commerçant peut mettre ce qu'il veut.
Et alors, pour les repas, avez-vous des conseils à donner pour ne pas se ruiner ?
Évidemment, les repas, sont le plus souvent le plus gros budget de la fête. Et pour des économies, mais cela risque d'être un peu tard. Certains produits ont tendance à voir leur prix grimper à quelques semaines des fêtes. Il aurait fallu anticiper sur les boissons, les produits surgelés, qui peuvent être de très bonne qualité. Et en plus, il peut y avoir davantage de choix. Certains magasins font une ristourne lorsque l'on passe commande de volailles, de poissons, de crustacés, ce qui leur permet d'assurer les ventes. Ce qui n'empêche pas de venir chercher le produit au dernier moment, garantissant des conditions de conservation optimales par le professionnel. Le choix d'un produit sous signe de qualité, et de plus produit localement, sera souvent un gage de qualité et de fraîcheur. Le ticket de caisse, vérifié dès le passage aux caisses, permettra de repérer l'erreur d'affichage, toujours possible. Pensez-y pour les fêtes du Nouvel An. Mais si vous pouvez retarder la fête de quelques jours, il y aura les promotions.
Merci Jean-Michel Guinaudot pour ces conseils. L'Autre Radio vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une année 2024 pleine d'actions en faveur de la défense des consommateurs.
Et l'UFC Que Choisir de la Mayenne vous remercie de l'accueillir sur vos ondes. Nous souhaitons à toute l'équipe de L'Autre Radio une bonne année 2024. À l'année prochaine.
À l'année prochaine Jean-Michel. Et oui, amis auditeuristes, l'émission arrive à sa fin. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on reste sur L'Autre Radio parce que la soirée est longue et belle sur nos ondes. Et c'est à 19h que tout commence, Lucie.
Tout à fait, avec l'émission qui nous permet de découvrir des artistes émergents, c'est Novorama sur L'Autre Radio.
C'est l'émission, oui, bien sûr. Et comme quand ça commence en musique, on a du mal à couper le son.
Tout à fait, ça continue à 20h avec The Voice of Cassandre. Et donc la soirée continue avec des mixtapes et des playlists.
Et alors, il y en a pour tous les goûts ce soir parce que Chaosphère prend la relève à 21h.
Tout à fait, pour 2h40 de reprises de groupes rock, heavy et black par les grands représentants du style metal.
On vous a tout dit, merci pour ce moment passé ensemble. Soyez au rendez-vous demain à 12h15, prenez soin de vous, c'est important. Et puis surtout, faites-le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini.